France Musique. Europe 1720, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode, le sixième de ce tour d'Europe des années 1720, qui va nous amener à considérer comment anciens et modernes se répondaient. Nous ne reviendrons pas sur la querelle entre les défenseurs d'une musique française contre une musique italienne, déjà évoquée dans notre premier rendez-vous, préférant plutôt voir comment évoluent les genres nés au début du baroque. Le dernier tiers de cette période dite baroque, qui s'étend schématiquement de 1580 à 1750, voit l'accomplissement de certaines formes, comme l'opéra, l'oratorio et la suite, et le développement d'autres, comme le concerto et la sonate, dont s'empareront le classicisme et le romantisme, avec le succès que l'on sait. Aussi peut-on considérer cette apothéose du baroque, celui des Couperin, Rameau, Telemann, Bach, Händel, Vivaldi, Scarlatti et tant d'autres, comme une période de basculement durant laquelle les traces des premiers essais et le souvenir de la Renaissance vont être gommés, vont ainsi s'imposer certains instruments aux dépens d'autres venus du passé. Dans notre émission consacrée justement aux instruments, nous avons entendu le violon qui connaîtra une vie soliste à faire des jaloux. D'autres n'auront pas la même fortune et jetteront leur dernier feu.
Thank you.
Côte à côte, le violon moderne et la basse de viol ancienne, c'était François Fernandez en violon, Philippe Pierlot à la basse de viol, Kenneth Weiss au clavecin, c'était la sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont de Marin Marais. Cette page est extraite d'un recueil paru à Paris en 1723, intitulé « La gamme et autres morceaux de symphonie pour le violon, la viole et le clavecin », et dont on comprend également la gamme en forme de petit opéra et une sonate à la marésienne. Et dans cette sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont, les trois notes inlassablement répétées à la viole imitent le battement des cloches de l'abbaye de Sainte-Geneviève. Cette abbaye a disparu, mais certains de ses vestiges sont intégrés au lycée Henri IV, tout près du Panthéon à Paris, en haut de la montagne Sainte-Geneviève. Marin Marais, à la fin de sa vie, il mourra en 1728, proposera également, en ses années 20, son cinquième et dernier livre de pièces de viol, en 1725, très exactement. D'autres compositeurs rendront un dernier hommage à la viole, instrument donc déjà ancien. Je pense notamment à Bach dans ses 3 sonates pour viol de gambe et clavecin, Telemann qui lui consacrera 12 fantaisies, publiées à Hambourg en 1735, et également les pièces de François Couperin ou d'Antoine Forqueray. La viole, en ce premier 18e siècle, était donc en train de passer de mode, détrônée par un instrument plus sonore, plus brillant, plus puissant, le violoncelle.
Thank you.
Guyenne Queyras au violoncelle, Michael Beringer à l'orgue, Lee Santana au théorbe et Christophe D'Angel au deuxième violoncelle. C'était la sixième sonate pour violoncelle en si bémol majeur d'Antonio Vivaldi. Ces six sonates de Vivaldi datent vraisemblablement des années 1724-1725. Ce n'est peut-être pas la meilleure musique de Vivaldi, mais il faut reconnaître au compositeur une curiosité sans pareil et un goût très sûr pour la couleur instrumentale. Il faut dire cependant que quand on est à Venise, la couleur, on connaît bien évidemment. Vivaldi ne fut pas le premier à écrire pour le violoncelle, instrument dont le nom apparaît déjà au XVIIIe siècle et à qui Deli Antoni et Domenico Gabrielli, tous deux de Bologne, ont offert les premières pages solistes. Au début du XVIIIe siècle, c'est à Naples et dans le sud de l'Italie que se développe un répertoire pour violoncelle sous la plume de compositeurs tels Giulio de Ruvau, Supriani ou Francesco Alborea. Hubert Leblanc, un Français, lui, contestait cette avancée du violoncelle et a rédigé un texte plutôt violent qui s'appelle « La défense de la basse de viol contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle », rien que ça, publié à Amsterdam en 1740. 12 ans plus tard, la France connaîtra ce qu'on appelle la querelle des bouffons, opposition entre les tenants de la musique française, derrière Rameau, et ceux de l'italienne, derrière Rousseau. Toujours la dispute entre anciens et modernes. Les anciens étaient un peu compassés, les modernes autrement plus lestes. C'était des extraits de l'ouverture des nations anciens et modernes de Georg Philipp Telemann. On a pu entendre successivement les Allemands anciens et les Allemands modernes, les Suédois anciens et les Suédois modernes, les Danois anciens et les Danois modernes. C'était le Bach Consensus dirigé par Ewald de Meyer.
Europe 1720, Philippe Venturini, c'est l'été sur France Musique.
Cette ouverture des nations anciens et modernes de Telemann reprend celle de l'opéra Der geduldige Socrates que nous avons entendu dans la quatrième émission. Cette petite parenthèse pour illustrer les anciens et les modernes nous amène à considérer un autre instrument né au début du XVIIIe siècle et qui va connaître un destin fabuleux. C'est le pianoforte qui deviendra, vous le savez, le piano. Bartolomeo Cristofori, 1655-1731, originaire de Padoue, mais au point à Florence, un instrument à clavier capable de nuances dynamiques à partir d'un système de cordes frappées par de petits marteaux recouverts de peau. Des nuances, c'est évidemment ce dont est incapable le clavecin, même si notre premier XVIIIe siècle reste le temps du clavecin, et nous avons déjà pu entendre comment Couperin, Rameau, Scarlatti ou Händel ont pu le faire sonner. Mais pour l'heure, le pianoforte n'en est qu'à ses balbutiements.
Thank you.
Luca Guglielmi sur un pianoforte de Bartolomeo Cristofori construit à Florence en 1726. C'était un extrait de la sonate en si mineur opus 1 numéro 1 de Domenico Zippoli. Ce pianoforte a une sonorité encore un peu grêle, un peu légère et qui évoluera vers les merveilleux instruments si délicats et lyriques qu'ont pu toucher Haydn, Mozart et puis les claviers plus puissants de Beethoven et Schubert.
Europe 1720, Philippe Venturini, c'est l'été sur France Musique.
Je vous propose de quitter les claviers pour tendre une oreille aux instruments avant. Les hautbois et les bassons endossent de plus en plus le rôle de soliste. On pense notamment à des concertos de Telemann ou de Vivaldi. La clarinette va bientôt se faire entendre, prenant la place du chalumeau. Et il y a du changement dans la famille des flûtes. La flûte à bec, instrument de la Renaissance, va peu à peu s'effacer derrière sa cousine traversière. Ainsi, Bach remplacera-t-il les flûtes à bec par des flûtes traversières quand il révisera sa partition du Magnificat. Antonio Vivaldi consacre également 6 concertos. La flûte traversière, c'est son opus 10 qui paraîtra chez Lessen à Amsterdam en 1728. En France, la flûte traversière connaît un sort particulièrement favorable, même si on l'appelle flûte allemande, grâce à des compositeurs comme Jacques Hotteterre, Michel Delabarre, Michel Blavet ou Joseph Bodin de Boismortier.
Thank you.
Bartold Kuyken, Marc Antaille, Frank Theuns, Serge Saïta, Daniel Etienne, c'était cinq à la flûte traversière. Il fallait bien ça pour ce concerto pour cinq flûtes, opus 15, numéro 6, en mi mineur de Joseph Bodin de Boismortier. Une œuvre qui a paru à Paris en 1727. C'est un amusant télescopage que ce concerto, genre venu d'Italie pour cinq flûtes dont la sonorité et la grâce illustrent une certaine idée de l'élégance française. Nous avons commencé avec les cordes, celles de la viole. Je vous propose de terminer avec d'autres, celles d'un instrument également amené à disparaître. Ce partenaire attentif et sensible de l'air de cour, l'élément indispensable de la basse continue, le luth.
Thank you.
Courante, une sarabande, deux gavottes en rondeau et puis pour terminer une gigue, c'était des extraits de la suite pour luth en sol mineur BWV 995 de Jean-Sébastien Bach sous les doigts de Konrad Jung-Hennel au luth. Vous avez probablement reconnu une transcription de la cinquième suite pour violoncelle de Bach. Nous retrouvons ainsi le violoncelle entendu en début d'émission et qui finira par éclipser la basse de viol. Bach a également transcrit une autre œuvre pour luth, une de ses partitas pour violoncelle, mais lui confiera également des œuvres originales. Contemporain de Bach, dont nous avons déjà évoqué le nom comme membre du fameux orchestre de Dresde dirigé par Heinichen, Sylvius Leopold Weiss laisse également de très belles pages pour son instrument, le luth. C'est donc avec le luth, amené à bientôt quitter la scène, que se referme ce volet consacré aux anciens et modernes. La semaine prochaine, nous demanderons quelle musique pour quel public. Il y avait à la réalisation David Travailleur, à la technique Morgane Danan, attaché de production Annick Aumier. Vous écoutez France Musique à 17h. Il est l'heure de retrouver Marina Chiche et Mon cœur est un violon.
À réécouter sur francemusique.fr.